1923, Aragon dit qu'il n'existe aucune explication satisfaisante à la naissance du collage. C'est cette phrase qui m'a un peu frappé et m'a donné l'envie d'essayer de comprendre quelque chose de plus. L'histoire du collage désormais a une bibliographie très vaste, essentiellement anglo-américaine, mais il y a une édition française aussi qui a été faite du texte une sorte d'anthologie de l'histoire du collage à partir du cubisme jusqu'à nos jours. C'est ce texte de Brandon Taylor qui s'appelle justement Le collage, avec le sous-titre L'invention des avant-gardes. Et il y a l'édition française, la traduction française. Alors, si on parcourt ce texte, on se rend compte que le point de départ, un peu partout, le point de départ est naturellement cette fameuse œuvre de Picasso de 1912. Non, la nature morte à la chaise cannée, c'est-à-dire le premier collage de l'histoire de l'art moderne. C'est-à-dire, l'intérêt, je crois, est double, et ça touche tout de suite un des aspects les plus intéressants du collage. D'une part, le fait que Picasso ait utilisé un papier peint pré-imprimé, avec la chaise cannée, et d'autre part, il est construit, pour ainsi dire, un tableau-objet, avec un cadre fait avec une corde qui tourne autour, qui donne l'impression d'être une sorte de, justement, de petite table sur laquelle on a déposé une nature morte. Donc c'est ça les deux aspects. Le fait d'utiliser du papier pré-imprimé pour représenter quelque chose et d'autre part créer un objet. C'est un objet, théoriquement, ce n'est plus un tableau qu'on accroche au mur, mais ça pourrait être un tableau qu'on dépose sur une table, ou que l'on met en horizontal. L'histoire se complique aussi parce que, d'une part, ce résultat, cette découverte, pour ainsi dire, du collage, est le complément nécessaire d'un travail qui avait déjà commencé à partir de 1907-1908, de la part de Picasso, c'est-à-dire l'opération de démonter la nature morte et l'objet de la nature morte. Et naturellement, le fait de démonter l'objet rend possible le fait de remplacer des parties de l'objet avec quelque chose de différent par rapport à la peinture traditionnelle. Mais d'autre part, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y aura, après la phase, héroïque du collage 1912-1914, soit Braque que Picasso vont peindre en feignant de faire du collage. Et ça, c'est un autre aspect qui est assez curieux, qui m'a frappé, surtout chez Braque. Il y a une sorte de, d'anticipation du collage, parce que c'est un papier collé, mais ce n'est pas un collage comme on les imagine. Picasso, déjà en 1908, avait utilisé un bout de papier collé sur un papier à dessin, pour compléter justement une idée de baigneuse, de deux baigneuses qui, naturellement, comme on va voir, dépendent du travail fait pour les demoiselles d'Avignon. Et une des deux baigneuses, justement, rêve en soutenant une sorte de billet, le billet du magasin du Louvre, et qui est collé sur l'autre papier, à l'envers, et sur lequel Picasso a fait un dessin d'un pêcheur, on imagine, c'est une barque avec un pêcheur qui se plie vers l'eau. Et on disait que ça dépend naturellement du travail, du point de vue de la forme, du, du style, c'est déjà une œuvre qui est, dépend directement long travail que Picasso a fait sur Les Demoiselles à partir de 1906, c'est-à-dire une sorte de relecture et de progrès sur la voie ouverte par Cézanne, naturellement. Mais notre premier collage, disons, au pseudo-collage, au proto-collage, est une sorte de mélange entre un hommage à Cézanne, mais un hommage à Puvis de Chavannes. L'idée de mettre le pêcheur sur le billet du Louvre est évidemment une allusion au tableau peut-être le plus fameux de Puvis de Chavannes. Un artiste sur lequel, comme ça entre parenthèses, sur lequel Picasso a longuement réfléchi et qu'il a beaucoup apprécié, même dans les années suivantes, surtout dans les années entre 19, 20, les années 20, quand il y a eu la phase fameuse du Picasso, pour ainsi dire, classique, néoclassique. Non? Et il a récupéré beaucoup ce modèle du 19e, de la fin du 19e. J'avais participé à une exposition à Venise qui avait été faite sur une sorte d'hommage à Puvis de Chavannes comme modèle pour la peinture moderne en Europe. Et on a découvert enfin que Puvis a eu un poids énorme dont on ne soupçonnait guère jusqu'à il y a quelque temps. Et puis donc c'est l'année décisive, c'est 1912, et Picasso et Braque en tandem, disons, travaillent sur l'idée d'utiliser des papiers pré-imprimés, les papiers peints. Ça c'est un des premiers exemples de papier peint. Mais alors, je crois que ce qui est intéressant, c'est se comprendre si dans la peinture, disons, ancienne, et dans l'histoire qui précède le XXe siècle, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut considérer comme un point de repère pour cette invention du collage. Du point de vue strictement matériel, il y a un exemple frappant qui est assez rare dans l'histoire de la peinture, du moins la peinture italienne, celle que je connais un peu mieux. Et ça, c'est un cas vraiment exceptionnel. C'est un peintre de la période qu'on appelle la contre-réforme, à la fin du XVIe, un des plus grands peintres de cette époque, à partir, disons, de 1560, plus ou moins, entre 1560 et 1610. Et ce grand tableau, qui se trouve dans l'église de Saint-François à Urbino, a un détail très, très curieux. La tête de Saint-François a été peinte sur papier et collée sur la toile. Bon, évidemment, ça n'a rien à voir avec les collages de Picasso, mais c'est une chose curieuse. Parce que ça dépend, il y a eu plusieurs tentatives, disons, d'explication, mais celle qui semble la plus probable, c'est que peindre sur papier, peindre à l'huile sur papier, plutôt que sur la toile, rend les blancs, les lumières, beaucoup plus brillantes. Et ce qui fait que... Attendez, si j'arrive... Pourquoi ça ne va pas... Voilà. En effet, bon, dans la reproduction est assez bonne, mais il faut voir le tableau directement. La tête de Saint-François a une luminosité qui est nettement supérieure par rapport aux têtes des autres personnages. Et ce qui est naturellement, du point de vue iconographique, était nécessaire dans ce cas. Et donc, le papier donne cette solution de luminosité plus intense. C'est un fait vraiment assez rare. Je ne connais pas d'autres exemples de ce genre. Au début, on pensait que c'était fait pour restaurer un problème de la toile. Mais quand on a exposé à Sienne, on avait fait il y a quelques années une grande exposition qu'on a consacrée à ce peintre, Et on a fait des légères restaurations sur le tableau et on a fait des radiographies. Et on a vu que la toile au-dessous était en parfait état. Donc, c'était vraiment un choix qui dépendait de cette nécessité de vouloir rendre la tête de Saint-François plus lumineuse. L'autre aspect curieux, c'est l'idée de faire pour ainsi dire, de transformer la peinture en objet. Et bon, ça, c'est un peu un escamotage, si vous voulez, mais c'est un objet peint. Ou un tableau objet. C'est les Parles della Crusca, c'est-à-dire cette grande académie florentine qui s'est consacrée à la recherche sur la langue italienne. Et donc, il y a les fameuses éditions du vocabulario, commencées en 1612 et puis jusqu'à nos jours. Et les académiciens, chaque académicien, quand il entrait en académie, voulait ou devait ou voulait représenter, se présenter avec, en faisant peindre une pelle. La crusca, vous savez, ça s'appelle le son, il me semble, non, en français. C'est ça? C'est ça, oui. Et donc, enfin, ça sert pour la farine. Enfin, et alors, il faut avoir une pelle. Non? La pelle, c'est l'objet symbolique, non, d'une quelque façon, de l'académie. Et alors, sur cette pelle, on représentait des images qui, d'une façon mystérieuse, avec un mélange un peu surréaliste, pour ainsi dire, un mélange d'objets incongrus entre eux, et pour créer cette image symbolique. Et je trouve que ça, c'est assez curieux, justement, comme précédent de peinture-objet, qu'on pouvait même déposer sur une table et pas nécessairement accrocher au mur. Maintenant, ils sont exposés accrochés au mur, mais enfin. Un autre aspect que je trouve qui peut être intéressant, sur lequel réfléchir comme précédent, c'est la conscience du tableau-objet, justement, et qu'on trouve à partir du 16e, mais surtout au 17e, quand il y a le tableau dans le tableau. C'est-à-dire un grand tableau, non, qui. En trompe-l'œil, montre un sujet qui est peint sur une autre toile qui se trouve à l'intérieur du tableau. Il y a beaucoup d'exemples célèbres, mais j'ai choisi celui-ci parce que peut-être un peu moins connu ici. C'est un des soi-disant élèves, amis élèves du Caravage, dont on a découvert. Très récemment, d'ailleurs, l'identité. On l'appelait seulement Checco del Caravaggio à cause des informations qu'on avait grâce à des documents. Mais on ne savait pas qui c'était exactement ce Checco del Caravaggio. Puis maintenant, on l'a découvert, c'est ce Francesco Boneri. Et c'est un artiste qui n'a pratiquement aucune bibliographie ancienne. C'est un nom qui est ressuscité, pour ainsi dire, grâce aux recherches récentes. Bon, là, c'est l'image, naturellement, du jeune acteur, dans une sorte de mise en scène, non, d'un jeune acteur qui s'imagine avec les ailes d'amour, non, et qui boit à la fontaine d'amour en ayant déposé les armes par terre. Mais cette scène est représentée sur un tableau qui se trouve dans le tableau, non? Et l'idée de mettre cette grande toile sur l'angle supérieur à droite, non, pour créer encore rendre encore plus visible le fait qu'il s'agit d'un tableau dans le tableau. Un autre sujet qui se prête beaucoup à la représentation d'une image dans l'image, c'est le voile de Véronique. Et il y a là aussi vraiment un choix très vaste. Mais le plus impressionnant, je trouve, c'est celui de Zurbaran, avec cette idée du voile de Véronique qui est clouée, non sur un morceau de bois, non, clouée, et sur la toile, il y a apparaît l'image du visage du Christ. Puis d'autres jeux assez impressionnants, c'est quand il y a un certain moment l'idée de créer le trompe-l'œil, un trompe-l'œil qui se multiplie à travers le miroir. Et alors la représentation en même temps du même personnage vu de plusieurs points de vue. Comment dire, une sorte de multiplication du personnage. Et donc ici, l'autoportrait qui permet de voir l'artiste au travail sous trois points de vue différents. Donc, l'image de l'artiste, disons, vivant, est vue derrière des épaules, et donc on ne voit pas son visage, mais on le voit seulement en représentation. Soit une représentation qu'on imagine fidèle à travers la glace et le miroir, et soit en représentation picturale. Et c'est une sorte d'autoportrait dans l'autoportrait. Parce que, non, c'est l'artiste qui se représente deux fois, en un certain sens. Et la même chose, on trouve dans un formidable tableau florentin du XVIIe, d'un des peintres les plus importants qui ont eu beaucoup de succès, même à l'étranger, surtout en Angleterre, et qui propose son image, son autoportrait, deux fois. Il se représente avec le geste, non, de présenter en même temps un dessin qui représente son visage vu d'un profil. La chose curieuse, c'est que ce dessin existe et est conservé aux Offices, et on l'avait exposé une fois, justement, les deux en même temps, le tableau et le dessin. Et puis, il y a la grande série des trompe-l'œil. Les trompe-l'œil sur le sujet de la nature morte, naturellement, est le sujet préféré. Et là, vraiment, on a cette idée du tableau qui est devenu un véritable objet, non ? Un objet qui est qui a une sorte de présence physique dans l'espace et qui a une vie, pour ainsi dire, limitée, non ? C'est l'idée de la vanitas, non ? De la mort. La mise en compte de la mort. Non? Alors, l'idée de l'espace est formidable dans cet exemple néerlandais. Il y a une sorte de premier plan avec les instruments de la peinture. Non? Et derrière, dans un autre espace, il y a le tableau avec son cadre et le coin de la toile qui est déchiré. Et on voit, on a accroché sur l'angle du tableau un portrait. Donc une vanitas qui est représentée dans la nature morte, parce qu'il y a les objets typiques du sujet de la vanitas, avec le squelette au milieu des objets naturels. Mais cette vanitas n'est pas seulement une sorte de promémoire, disons, pour la vie humaine, mais même pour la vie de l'art, du moment que le tableau est en train de se détruire, de se décrocher. Ça devient une sorte déjà de nature morte pré-cubiste, en un certain sens, parce que c'est un espace absolument irrationnel, non, de disposition d'objets dans un espace qui imagine une sorte de vitrine, non, avec les portes ouvertes et la fenêtre entrouverte, et la vitrine où on a réuni une quantité disparate d'objets selon le principe du studiolo, non, de la on l'appelle le scarabattolo, et il n'y a pas de terme français qui correspond au scarabattolo. C'est une vitrine pour les collections une sorte d'armoire Wunderkammer, non? Ça serait cabinet de curiosité, mais en réalité, c'est cabinet de curiosité. D'habitude, on imagine un espace architectural, non? Tandis que là, c'est une sorte simplement de vitrine, de petits meubles. Il y a un précédent encore plus ancien, c'est les tarsie, non? On dit la marqueterie, je crois. Oui, la marqueterie. C'est une sorte de collage. Là, c'est vraiment une sorte de collage, ou plutôt, pour être plus exact, de mosaïque, avec une composition faite exclusivement avec des petits morceaux de bois, et on utilise la couleur des bois différents pour remplir un dessin fait à plat. Ça, c'est deux exemples des portes des armoires du Studiolo du Palais Ducal d'Urbino, qui était ce milieu très réservé, très privé pour le recueillement et l'étude du duc. Et vous voyez, c'est un peu l'idée du scarabattolo qu'on a vu avant, non? C'est l'idée d'imaginer. Ce sont effectivement des portes d'armoire, mais sur lesquels on a réalisé une sorte de trompe-l'œil avec une deuxième fausse porte, non, qui se ouvre sur l'intérieur de l'armoire, où on a déposé des objets différents réunis selon des intérêts des sciences humaines, non? Donc géographie, astronomie, musique, poésie, etc. Et puis les classiques trompe-l'œil, où on commence à voir vraiment une sorte de collage. En effet, c'est une sorte de collage. C'est un faux collage, dans le sens que tout est peint. Rien n'est en papier collé, mais c'est l'idée du... Et là, ce que je trouve intéressant dans cette forme de trompe-l'œil, c'est l'idée de réunir des objets, et on verra que dans la tradition du collage moderne, c'est un aspect qui est présent, réunir des objets qui représentent une sorte de collection de souvenirs, la récolte de la mémoire. Je trouve que c'est un aspect qui est assez intéressant. Mémoire de l'ancien, par exemple. Et ça, c'est un trompe-l'œil qui est tout à fait intéressant, même pour l'autre aspect, pour l'aspect qui concerne exactement le soi-disant premier collage de Picasso. Ici, on imagine, on peint une surface plane qui feint d'être le plan d'une table. Et les choses sont déposées sur la table, non? Donc, c'est une sorte de tableau, justement, qu'on peut imaginer mis en horizontal. Des fois, on les mettait sous verre, non? Ces papiers, on les passait réellement sur une table et avec un verre dessus. Et c'est une mémoire de lieux qu'on a vus, de lectures qu'on a faites, et mémoire de l'ancien. Et la tradition de la nature morte, naturellement, va dans cette direction. J'ai mis Chardin parce que je crois que c'est vraiment un des plus grands maîtres de la nature morte mondiale. Et surtout, ce Chardin est intéressant parce que c'est une nature morte allégorique, non? Où les objets... Donc, la nature morte en elle-même est intéressante parce que la nature morte représente une sorte de reconstruction des données de la nature, parce que les objets naturels sont choisis par l'artiste et sont disposés par l'artiste avant de peindre. Donc il y a une forme de construction mentale, non, du tableau avant de le peindre. Ici, la chose encore plus intéressante, c'est que les objets représentés sont des objets à double fond, parce que chaque objet a une fonction allégorique. Non, la sculpture, en réalité, est tout à fait naturelle, parce que dans une nature morte, on peut très bien mettre une sorte de presse-papier, non, pour éviter que les feuilles ne s'envolent avec le vent, un courant d'air ou quelque chose de ce genre. Et en réalité, ce presse-papier est un hommage à la sculpture, représente la sculpture. C'est une allégorie de la sculpture. De même que les papiers sont une allégorie de l'architecture. Et les pinceaux sont l'allégorie de la peinture. Et le dessin, non, avec le cartable qu'il y a sur le fond, en vertical, c'est les feuilles de dessin. Donc c'est une allégorie des arts, dessin, peinture, sculpture, architecture. Donc c'est une nature morte, naturellement, qui est... après, il y a même la médaille, non, qui est, parce que c'est le prix que le peintre a pu conquérir grâce et obtenir grâce à ses activités. Le 19e siècle est tout à fait curieux parce qu'il y a le trompe-l'œil devient un véritable jeu, non, pour tromper l'imagination, le regard et l'imagination. Les Américains sont sur ce plan. Les Américains, la peinture américaine du 19e est formidable. Il y a des exemples formidables. Surtout ce peintre Hartnett qui présente un répertoire vraiment très curieux. Surtout celui-là, je trouve que c'est un objet déjà dadaïste dans un certain sens, non? Et c'est un tableau absolument normal, traditionnel, et sur lequel on a imaginé une structure en bois, non, qui, avec un gros clou, on soutient une sorte de gamelle, enfin, je ne sais pas, une chose de ce genre, et où il y a des restes de papier déchiré, non, sur la droite, et avec une inscription comme ces inscriptions qu'on peut faire sur les murs, non, comme ça, un peu rapide, et The cup we all race for, c'est-à-dire une image qui a un trompe-l'œil, mais qui a tout d'un coup, grâce à des mots qui entrent dans l'image. Et ça, c'est l'autre aspect qui est intéressant pour la tradition du collage cubiste, non? La présence de mots, de partie de mots ou partie de phrases. The cup we all race for. C'est une phrase qui a un sens politique, non, fortement politique, parce que ça, c'est la gamelle du repas de l'ouvrier, non, de tous les jours, qui est accrochée là, et tous les jours, on combat pour avoir cette gamelle. Un autre aspect que souvent dans l'histoire du collage on évoque, et je crois que c'est on peut en tenir compte, c'est la forte le changement de comment dire du décor de la ville. La ville qui change ses espaces et change surtout ses surfaces. Et les grands panneaux publicitaires qui commencent vers la moitié du siècle, du 19e, et qui changent l'aspect de la ville. Une façon même de regarder la réalité, une réalité qui se présente sous forme d'imagination. Et justement, on se rappelle surtout du changement de Paris et des grands murs consacrés aux publicités et aux grands panneaux publicitaires. Bon, ça, c'est les fameuses photos que Eugène Adjaye avait consacrées à ces images de la publicité parisienne. Et donc, l'idée d'avoir une grande dimension, une énorme dimension, la dimension d'un mur d'un bâtiment, complètement couvert d'inscriptions qui se mélangent, inscriptions qui ont des phrases qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, parce que chaque, évidemment, non, chaque publicité comment dire, est inscrite dans son cadre, et il n'y a aucun lien avec celle qui est à côté, où les mots, les lettres se mélangent aux images, et une sorte de all over, non, de la surface du mur. Et alors, on peut revenir à ce point de départ de 1912-1913 et se poser quelques questions. Ces natures mortes, bon, c'est évident que désormais on les reconnaît comme des tableaux, comment dire, naturalistes, si on peut dire, non, réalistes. D'ailleurs, Braque disait que les morceaux de papier peint ou de journal qu'il avait introduit dans ces tableaux étaient pour lui une certitude. Il les a toujours appelés des certitudes, c'est-à-dire des fragments de vie réelle qui rendaient, comment dire, réel, concret, qui accrochait le tableau à la réalité. Il a toujours parlé, utilisé ce terme de la certitude. C'est la certitude de mon tableau. Mais quel type de certitude? C'est assez intéressant de se poser cette question. Alors, sur Picasso, naturellement, on a tout de suite fait des efforts pour essayer de comprendre si les fragments de papier insérés dans le collage avaient un sens, s'il fallait lire. C'est-à-dire, les morceaux de journal qu'on trouve dans ces collages, il faut les lire, ou bien ces morceaux ont une autre fonction. Là, le journal que Picasso utilise, c'est le titre, la première page du journal, et où on parle du Congrès international de l'éducation physique. Et cela, évidemment, par rapport au vieux Marc, qui est une liqueur et qui est typique d'un café parisien, et le verre et les autres objets qu'on imagine sur la table n'ont évidemment pas de lien spécifique, non? Donc, dans ce cas, le journal représente le journal replié, non? Le journal représente soi-même. C'est un journal, un morceau de journal qui représente le journal dans la nature morte. Ici, c'est un peu la même chose. On a le titre, non, du Figaro, et un morceau de journal sur la droite mis dans l'autre sens. Alors déjà, le fait de le mettre dans l'autre sens donne l'impression que probablement il est inutile de perdre du temps pour essayer de lire ce qui est écrit. Mais la chose la plus intéressante, c'est que ce journal du Figaro, comme on le voit, et Picasso l'a laissé bien en évidence, c'est un journal du lundi, d'un jour de mai 28, il me semble, mai 1883. Mais nous savons que nous sommes en 1913, donc il a utilisé un morceau de journal qui n'a rien à voir avec le contemporain. Et en effet, le morceau de journal écrit qu'on voit sur la gauche, c'est un morceau d'un article sur le couronnement du tsar Alexandre III, fait le 13 mai 1883. Et c'est la grande cérémonie faite à Moscou pour le couronnement de l'empereur. Alors, est-ce que la chose a un sens? Non, évidemment, non. Alors, le journal ici représente le journal, comme dans l'autre cas, mais en nous mettant bien sur la vie, qu'il y a une sorte de... Le temps est démonté, de même que l'image est démontée. Donc la table, la guitare, l'arrière-plan, le papier collé, les ombres sont démontées et remonter selon un principe, disons, anti-Renaissance, c'est-à-dire sans perspective, mais avec une construction mentale. Et donc le journal représente la même opération sur le temps. Nous ne sommes pas en 1913, mais en 1883. Mais il n'y a aucun lien entre l'épisode qui est évoqué par le journal et la nature morte qu'on a devant les yeux. Un autre aspect intéressant, c'est la simplicité. Le collage, le papier collé cubiste, se base sur le principe de la simplicité. Obtenir un résultat avec très peu d'efforts. Et avec très peu d'efforts, obtenir beaucoup de résultats. Ici, on a le cas le plus évident, je crois. Le journal, c'est une seule page qui a été découpée et utilisée à l'endroit et à l'envers. Ça, c'est le détail de la première page du journal qui a servi pour le papier collé à gauche. Et l'envers, la deuxième page, celle qui reste après le découpage, a été utilisée pour la partie à droite, mais de l'autre côté. Donc, c'est les sujets que les deux articles traitaient n'ont rien à voir entre eux. Il y a même un peu d'ironie, si on veut, parce que, d'une part, il y a un fragment d'un compte-rendu d'épisodes dramatiques contemporains, non, de la Deuxième Guerre des Balkans. De l'autre côté, il y a cette curieuse phrase qui a été laissée, le petit titre est resté, une nouvelle ordonnance pour faciliter la circulation. Une chose assez curieuse, parce qu'on imagine naturellement le tram de Caen, non, et donc les problèmes de la circulation, mais en réalité, c'est un article qui annonce la découverte d'un produit qui sert à faciliter la circulation du sang. Donc, c'est du docteur Hermann. Et c'est une sorte de publicité ou de présentation pseudo-scientifique de ce produit qui s'appelle Oxybiol. Et c'est curieux parce que, ça, évidemment, ça n'a absolument rien à voir avec la guerre des Balkans. Et ce qui nous rend libre de lire, disons, cette façon de lire ces deux fragments de journal, pour, non pas pour ce qui est écrit sur la page, mais pour la fonction que les deux morceaux de papier ont à l'intérieur de la nature morte, et dont un morceau sert pour donner la couleur au violon et la forme, et une sorte de forme, naturellement, une forme de synthèse, mais la forme du violon, non, avec la courbe. De l'autre côté, le négatif, pour ainsi dire, de la page, celle de droite, sert pour évoquer l'arrière-plan. C'est la couleur de l'arrière-plan. Donc, d'une part, le papier sert pour la forme d'un objet, et de l'autre côté, ça sert pour la couleur, pour peindre, en un certain sens. C'est un peu ce qu'on trouve dans beaucoup d'autres exemples. Ici, on a beaucoup commenté le fragment de journal, parce qu'il y a la bataille s'est engagée, non, cette phrase, la bataille s'est engagée, et on a imaginé justement que c'était une phrase choisie par Picasso pour évoquer une sorte de bataille que les cubistes, et Picasso en particulier, avaient ouvert surtout contre Matisse et contre la tradition, en un certain sens. Et le jeu entre le terme journal coupé, non, le jou qui devient une sorte de évocation de la parole jeu. Et en effet, le mélange, non, entre la bataille s'est engagée, qui est de nouveau un fragment de journal qui donne un compte-rendu de la guerre des Balkans, est comment dire, mis en rapport avec une feuille de musique, non, pour une chanson de Marcel Leguay sur un texte de Ronsard. C'est d'ailleurs une des productions musicales les plus fameuses du monde de Montmartre, je crois. Justement, l'aspect qu'on disait intéressant de l'opération collage cubiste, c'est la construction de l'objet. Et il y a toute une série d'œuvres de Picasso qui sont très intéressantes de ce point de vue. Ce sont des collages qui ne sont pas collés. Pour ça, on disait que la colle ne fait pas le collage nécessairement. On peut faire le collage même sans colle. Ils ne sont pas collés, ils ne sont pas tous collés, mais ils sont arrêtés avec des épingles, selon le processus typique des couturières, non? Ce qui donne aussi l'idée qu'au fond, l'image du collage cubiste est une construction. Et ça devient, la peinture devient presque sur les trois dimensions, parce qu'il y a un relief. Ça, c'est une photo que j'ai prise directement sur le tableau. Les feuilles, les papiers se soulèvent. Ça devient une sorte de petit bas-relief. Mais surtout, l'autre aspect qui est intéressant, c'est qu'on peut imaginer qu'on peut théoriquement démonter et remonter différemment. Parce que le fait de ne pas utiliser la colle ne rend pas définitif le résultat. Et de même que la couturière peut arranger, après avoir essayé les vêtements, elle peut essayer de modifier la forme ou les dimensions du vêtement, on peut théoriquement faire la même opération, même sur le tableau. Et les trois dimensions, Picasso y arrive avec ces fameuses constructions de collage aménagé, non, dans son studio, dont on a la documentation évidemment seulement par photo. Et c'est un collage cubiste, mais fait avec une véritable bouteille, avec une vraie guitare. Et avec des morceaux de journal qui servent pour faire les bras du musicien et le dessin sur l'arrière-plan. Et une véritable table mise en premier plan. Et donc avec l'idée qu'on puisse théoriquement justement démonter, remonter et faire différemment quelque chose qui se présente en forme momentanément définitive, mais qui puisse être refaite. De la même façon, éventuellement, donc l'idée de répéter, de répétition ou d'une répétition variée. Et de même que les guitares qui deviennent de véritables sculptures, ce n'est plus, même plus du collage, mais c'est des véritables sculptures faites en carton ou après même en fer. De même que Braque aussi a une idée très matérielle. Il utilise... les épaisseurs. Braque souvent travaillait en préparant les tableaux avec du sable, avec des terres. Il a toujours eu cette idée d'une sorte de peinture tridimensionnelle, on dit, non? Et ici, justement, avec l'idée de faire les cordes de la guitare avec du carton ondulé. Et là, le jeu des mélanges des papiers et des papiers peints et des morceaux de journal sont tout à fait intéressants et répliquent l'idée qu'on a déjà dite. Mais avec quelque chose en plus ici, c'est-à-dire l'ovale et le collage est réalisé, appliqué sur un carton qui a été récupéré et un carton d'un le contrefond d'un miroir. Et c'est Braque a laissé l'étiquette, la provenance de la miroiterie Beuzebosch, comment on dit Beuzebosch, une chose de ce genre, du Havre. Donc là aussi, comme l'idée non, de, de maintenir un objet qui avait une fonction et qui change de fonction ou applique son ancienne fonction de contrefond d'un miroir, comme pour dire qu'au fond, la surface peinte n'est qu'un miroir, en définitive. Je ne crois pas que ce soit des choix du hasard, quoi. C'est un choix précis de vouloir laisser ces traces. Et là, c'est le triomphe, pour ainsi dire, de l'usage du papier journal, ou papier journal qui est utilisé de trois façons différentes, avec trois fonctions différentes. Non, le journal en tant que journal, c'est-à-dire le journal qui représente soi-même, c'est-à-dire le morceau du le quotidien du matin, j'imagine. Donc là, c'est le journal pour le journal. Le grand morceau en vertical, c'est la couleur, sert comme couleur, comme le fond de la table, non, sur lequel on a déposé la nature morte. Et l'autre bout de journal qui dessine la pipe. Et là aussi, naturellement, le morceau de journal que j'ai retrouvé, parce qu'il est renversé, et donc, évidemment, il n'est pas à lire. Mais il sert exclusivement comme le point de couleur qui sert. Et en tout cas, même si on retrouve le journal et on va lire les colonnes, c'est une chose qui n'a absolument rien à voir parce que ça regarde la situation financière et un peu de publicité. J'ajoute aux deux grands maîtres du collage français... J'ajoute un exemple italien d'un des artistes les plus intéressants de l'avant-garde italienne, et intéressant même du point de vue des rapports entre France et Italie, parce que Ardengo Sofficci, qui est un Toscan presque florentin de campagne, Sofficci a été peut-être un des artistes qui a été le plus présent sur le train Florence-Paris, à partir de l'année 1900, jusqu'à la Première Guerre. Et c'était l'artiste qui a fait connaître très tôt en Italie les cubistes, Cézanne d'abord, les Nabis après, et l'avant-garde cubiste en dernier lieu, à partir de 1910. Et on voit très bien qu'il était ami direct d'Apollinaire, de Picasso, de Braque. Il participait à toutes leurs activités quand il était ici. Et bien, la chose la plus intéressante, c'est après qu'il publiait des articles dans les revues italiennes pour faire connaître ces avant-gardes françaises. Et ici, bon, il fait une petite nature morte, lui aussi, avec des collages, des morceaux de journal où il y a un mélange naturellement de journal qui sert pour représenter le journal et d'autres morceaux qui servent seulement comme couleur ou comme expression, comment dire, un peu amusée aussi. Ça, c'est un épisode différent de papier collé, de collage, de peinture collage, de l'autre... mouvement de l'avant-garde italienne, plus connu, les futuristes, et qui ont utilisé le collage d'une façon pas systématique, mais enfin, ils ont utilisé pas mal de collage, mais d'une façon complètement différente. Alors, là, c'est un collage qu'il faut lire. C'est plus qu'une peinture, c'est une poésie visuelle. C'est un manifeste à lire. C'est un manifeste, d'ailleurs, pour soutenir l'intervention de l'Italie dans la Première Guerre, à côté de la France. Et vous savez, donc, l'Italie est entrée en 1915, un an après le début de la guerre. Et toute cette année 1914 a vu tous les artistes et les intellectuels liés au mouvement futuriste... qui ont fait une véritable bataille pour soutenir l'intervention italienne dans la guerre contre l'Allemagne et contre, pour l'Italie surtout, contre l'Autriche. Et alors, ça, c'est un petit carton comme ça où Carra utilise des morceaux de journal et des phrases, des titres, des morceaux de poésie de Marinetti. Et c'est quelque chose qu'il faut lire, qu'il faut presque représenter avec une sorte de récitation. C'est des bruits, il y a des mots, il y a des bruits, des mots qui indiquent de soutenir la guerre, ou bien des phrases d'enthousiasme, de la foule, la foule dans la rue, la manifestation, le bruit, les sports aussi. Patriotisme. Donc c'est un collage complètement différent par rapport au collage cubiste. Et d'ailleurs, même la forme, la disposition des objets correspondent au sens des mots. C'est une sorte de... on imagine une disposition comme si c'était une sorte d'explosion, non, d'une bombe qui explose. Mais Carra, un an après, va continuer à travailler avec le collage, mais d'une façon complètement différente, mais toujours en mettant des parties à lire qui donnent un sens. Marciare, non marcire. C'est une phrase typique des futuristes, de Marinetti en particulier, qui après a été récupérée plus tard par... l'excellent Mussolini, et qui a le sens marciare non marcire, donc ça veut dire, comment on peut dire, marcher et pas pourrir. Non. Mais on voit aussi qu'il y a une première tentative de la part de Carra de sortir du jeu futuriste, en certain sens, et de l'imaginaire futuriste. Et sur cette sorte d'arrière-plan qui est construit d'une façon plus proche au cubisme, et sur cet arrière-plan, il y a une sorte de sculpture qui est déposée, la tête, un portrait imaginaire, qui nous porte déjà dans la direction de Chirico et de Carra, qui se lira à De Chirico pour ce qu'on appelle la métaphysique. La période métaphysique de Carra. L'autre grand bloc, il y a trois grands blocs, non? Cubisme, dadaïsme, pop art, essentiellement. Dada des précédents qui sont tout à fait formidables, qu'on évoque aussi des fois, mais pas toujours. Je trouve qu'un des grands précédents de Dada, c'est cette série de quatre, il me semble, expositions des arts incohérents et des artistes incohérents, faits à Paris dans les années, nous sommes le premier étant en 1883, deux ou trois, et puis une série, non, jusqu'à 89, il me semble. Et j'ai choisi le catalogue, la couverture du catalogue de 1886 parce que il y a cette image qui, évidemment, je crois que c'est assez facile à imaginer, non? C'est une sorte d'anticipation d'une des scènes les plus fameuses du premier cinéma moderne, non? De Méliès, non? L'idée de la fusée qui tombe dans l'œil de la lune, non? Alors, parmi les artistes incohérents, il y a des objets qui sont des pseudo-collages, non? Alphonse Allais, d'ailleurs, je crois que c'était un Normand, je crois, n'est-ce pas? Et qui présente, en 83, présente on ne sait pas si on peut dire deux tableaux, mais enfin, deux œuvres, disons. Donc, la fameuse première communion... des jeunes filles chlorotiques pendant temps de neige, et l'autre, la récolte de tomates par les cardinaux apoplexiques au bord de la mer Rouge. Et c'est des collages, en un certain sens, c'est des collages de mots, non, qui se traduisent en images. Mais parmi les artistes incohérents, il n'y a pas seulement Alphonse Allais, Allais a des phrases qui sont absolument... qu'on ne peut pas oublier. Donc, ne jamais faire demain ce que tu peux faire après-demain. Non, c'est une des phrases fameuses et formidables d'Alphonse Allais. Bon, non, les incohérents avaient des exemples déjà de collage et de montage d'objets. Bataille avec le fameux précédent de Duchamp, non, de la Mona Lisa qui fume la pipe, et cette autre œuvre anonyme mais qu'on connaît du catalogue, du bas-relief, non, le bas-relief avec ce bas de femme cloué sur une planche. Et ça, c'est déjà une sorte de... Ce n'est plus un collage parce que ce n'est pas du papier, mais c'est déjà quelque chose qui va au-delà du collage. Puis il y a le véritable travail de collage des artistes Dada. Et un des exemples plus intéressants, c'est la façon dont Hans Arp travaille avec le collage. Et travaille avec un aspect, sur un aspect qui est fondamental dans la construction du collage, c'est-à-dire l'incidence du hasard. Le hasard dans le collage est fondamental pour n'importe quel type de collage, même pour le collage cubiste, théoriquement. Mais ici, Arp essaie de nous convaincre que des morceaux de papier colorés, blanc ou bleu, lancés en l'air et laissés tomber par terre sur une grande feuille, tombent et forment un collage de ce genre, les carrés selon les lois du hasard. Il est évident qu'on pourrait passer toute notre vie à lancer des morceaux de papier déchirés au hasard, ça c'est sûr, avec les bords qui ne sont pas dessinés mais sont laissés, disons, au hasard de la déchirure. Mais le hasard est seulement dans le bord de la déchirure, parce qu'il est évident que la disposition des bleus et des blancs sur le papier est une construction, en réalité. Donc, c'est un hasard piloté. Berlin et le Dada suisse et allemand, avec la fameuse première foire internationale faite dans une galerie de Berlin en 1920, où il y avait ces énormes constructions de collages des grands maîtres du collage dadaïste qu'on va voir dans un instant. Mais ce qui est intéressant, c'est le grand précédent que cette exposition a eu pour la pop art en Angleterre. La grande exposition du This is Tomorrow, faite à la Whitechapel en 52, est une reconstruction qui ressemble comme deux gouttes d'eau à cette présentation, avec une véritable sculpture accrochée au plafond et une série de collages tout autour. J'ai trouvé cette chose curieuse, une sorte de compte-rendu de l'exposition Dada dans un des journaux les plus populaires italiens, la Domenica Illustrata, où avec un artiste qui dessinait les couvertures, la première page du journal, se base sur cette photo de l'exposition Dada. Et curieusement, il utilise comme... Il a l'encadrement de son dessin ne permet pas, il n'arrivait pas à comprendre exactement, évidemment, le tableau qu'il y avait sur la droite, non ? Parce que trop de confusion, il n'arrivait pas à comprendre ce que c'était. Et alors, il reproduit sur la droite, il ne reproduit pas le tableau qu'il y a dans la photo, mais il reproduit celui qui est à gauche. Et il le renverse et il le met à droite. Donc, il fait un collage à sa façon, il fait une sorte de faux collage, lui aussi. Et surtout, il introduit parmi les spectateurs, on sait que les personnages présents étaient les artistes dadaïstes, et il introduit une femme, évidemment, de la haute société qui est présente en premier plan, non, assise peut-être pour montrer son désarroi par rapport à la situation de l'exposition Dada. C'est curieux, je connais, trouvé par hasard. Alors, le collage dada, en dehors de Harp et en dehors de Schwitter, ce qu'on va voir enfin un instant, le collage dada est une façon d'interpréter le découpage complètement différent par rapport au cubiste. Et ça, Aragon le met très nettement, le souligne d'une façon très nette et très, très intelligente. Le collage, en réalité, Aragon est très nettement du côté dada surréaliste, évidemment, non? Et c'est l'écrit le plus important, celui qu'il appelle la peinture au défi, est consacré à Max Ernst. Donc, c'est un peu son artiste, disons, c'est Max Ernst. Le collage dada est l'invention du photomontage, c'est-à-dire d'utiliser le découpage des images, des photos, des publicités, des objets, des personnages, et peindre avec le papier pré-imprimé et reconstruire une sorte d'espace naturel, non, de peindre une pièce comme... C'est dans ce cas, non, une pièce où il y a une série d'objets qui sont apparemment plausibles. Et ça, c'est le point de départ aussi du collage anglais pop des années 50. C'est-à-dire construire une sorte de tableau traditionnel, avec une construction traditionnelle, avec de la perspective, donc le contraire de l'opération cubiste, récupérer donc la construction de l'espace Renaissance avec les découpages. Et en insérant dans cette sorte de représentation d'un espace plausible, insérant des objets ou des personnages qui n'ont pas de rapport entre eux, ou qui sollicitent une sorte d'imagination pour interpréter l'image. Aragon, dans son article de 1923, dit justement, se basant justement sur la phrase qu'on évoquait tout à l'heure de Braque, il dit le collage cubiste est une certitude de la réalité, tandis que Max Ernst est un peintre des illusions. Donc, Raoul Hausmann et Anna Hoch. C'est les deux grands maîtres, disons, du photomontage dada, avec le troisième, John Hartfield, c'est un Allemand avec le nom anglicisé, hein, et ils ont tous eu naturellement des problèmes avec la période nazie, et Hartfield est allé en Angleterre, il est resté, en définitive, il est resté en Angleterre, et il est mort en Angleterre. Et là, c'est l'idée d'utiliser le collage pour inventer une sorte de critique comique, non, utiliser l'ironie pour faire une attaque politique. Et ça, c'est un conseil aux Français, non? Avec le coq français et Hitler qui prépare son couteau, il dit, mais n'ayez pas peur, il est végétarien. Donc c'est le collage qui a une fonction très précise, une fonction de politique, et donc en tant que tel, est un peu comme le collage futuriste, est un collage à lire, de même que pour Anna Hoch. Mais c'est un collage là, très pré-pop, non, à un certain sens, puis il utilise... là aussi, l'élément de l'ironie est présent. La jolie fille qui est une sorte de portrait d'une jolie fille avec des belles jambes, avec une belle tête, mais complètement mélangée à des éléments mécaniques et à une sorte de publicité d'une automobile fameuse. Ernst, lui aussi, raconte. Il crée avec le collage une histoire, un tableau narratif. Mais c'est un conte fantastique, naturellement, et totalement irrationnel, en utilisant, et ça, un autre aspect de récupérer l'ancien, non, actualiser l'ancien. C'est-à-dire, Ernst a fait une série de travaux en utilisant des découpages de vieilles illustrations du 19e et en transformant l'illustration du 19e, qui est une illustration le plus souvent liée à un texte et sert comme illustration visuelle, non, d'un texte, une transcription de la parole d'un mot ou de la parole en image, et donc c'est un raconte qui raconte, c'est une image qui raconte, et Ernst la démonte parce que évidemment l'image que Ernst récupère et remonte n'a plus rien à voir avec le conte de départ, le rossignol chinois. Là aussi, l'idée de faire un portrait, une sorte de portrait d'une fille, on imagine, non, avec cette tête, un œil et l'éventail. Ça, c'est l'autre. Ici, on est déjà dans les années 30. Évidemment, il a utilisé des choses dans le style, disons, Gustave Doré, comme ça se rend un peu compte, non, où l'illustration de Gustave Doré a une fonction très précise par rapport au texte. Donc, ça sert à matérialiser en image le contenu d'un texte, un épisode important du texte. Et Ernst démonte complètement cette fonction et remonte pour raconter quelque chose qui est absolument complètement différent dans son La Ténébreuse. L'autre aspect d'Ada, c'est la Schwitters, avec son œuvre principale, une œuvre fondamentale même pour tout ce qui viendra après, surtout dans l'après-guerre. L'idée de transformer le collage traditionnel en assemblage et de le transporter dans la dimension de l'architecture. Le Merzbau, non, c'est cette construction fantastique que Schwitters a dû faire trois fois, parce que deux fois, elles ont été détruites par un incendie, et une autre fois, elles sont complètement détruites pour une autre raison, je ne me souviens pas. Enfin, les trois éditions ont été détruites. Donc, on a maintenant seulement une reconstruction qui a été faite assez récemment. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement ça devient. Donc, vous savez comment c'était l'idée de Schwitters, de Merzbau. Non, c'est un assemblage de morceaux, de pièces, d'objets récupérés et progressivement montés. Et assemblé dans son habitation, et peu à peu, ça a pris une telle dimension qu'il a même défoncé le plafond pour pouvoir passer à l'étage, non, et construire cette sorte de tour, en un certain sens, ou d'architecture dans l'architecture. Mais deux choses sont intéressantes. Le fait qu'il ait demandé à ses amis qui le fréquentaient de laisser des objets ou de placer des objets dans cette construction. Donc c'est une construction qui n'est pas exclusivement de Schwitters, mais avec la participation même de ses amis. Ce qui rend le Merzbau une sorte d'autobiographie. C'est une œuvre qui raconte la vie de l'artiste. Et ça, c'est un aspect que je trouve très intéressant. C'est-à-dire l'idée d'avoir une œuvre d'art qui est où l'autographie est plurielle et en même temps, c'est une récolte de mémoire. L'idée de récupérer justement le passé, de sauver en un certain sens le passé. Même dans les œuvres plus simples et plus petites, disons même comme format de Schwitters, il y a toujours cette idée de récupérer des fragments de la vie de tous les jours. Ici, c'est cette construction, c'est un tableau abstrait, c'est essentiellement, monté avec réalisé avec des découpages de papier coloré ou pré-imprimé, et avec des fragments de vie de tous les jours. Non, les restes des billets du tram d'Amsterdam. Un peu d'ironie toujours, la construction pour noble dame, ou dame noble, je ne sais pas, et où il y a, du point de vue formel, mais c'est important parce qu'il y a le passage du collage à l'assemblage, c'est-à-dire fixé sur la surface du tableau, non seulement du papier ou de toute façon quelque chose d'aplat, mais des objets en relief et donc transformer un peu ce que Picasso faisait simplement en laissant les papiers soulevés, arrêtés, fixés seulement avec les épingles. Lui, il introduit des éléments d'objets récupérés. Et l'idée de récupérer des objets, des déchets, récupérer des déchets, c'est l'idée qui va passer aux États-Unis, surtout avec le groupe qu'on appelle New Dada, et surtout de Robert Rauschenberg, je crois l'artiste le plus lié à les opérations de Schwitters. C'est l'idée de récupérer les déchets de la société, de la vie de tous les jours, et de redonner une fonction noble, entre guillemets, non, fonction noble à des objets qui seraient destinés seulement à la disparition. Et voilà ce que je disais tout à l'heure, le photomontage dadaïste comme grand précédent pour le collage anglais. Moi, j'ai toujours insisté, même avec mes étudiants, sur ce fait, parce que si on demande aux étudiants pop art, on dit pop art, c'est Andy Warhol, pop art, c'est les États-Unis. Et c'est vrai, mais ce n'est pas exact. Parce que pop est essentiellement, tout d'abord, du point de vue de la chronologie, c'est tout d'abord l'Angleterre. Et en particulier, c'est les deux, trois grands maîtres du pop anglais, Paolozzi, Hamilton, Blake, sont les artistes qui ont réellement fait un type de pop européen, disons, qui en a presque rien à voir avec le pop américain. Et il commence très tôt, parce que Blake, Paolozzi, Hamilton commencent à faire des collages qu'on appelle pop, déjà tout de suite après la guerre, déjà dans les années 40. Et puis il y a la grande série que Paolozzi a faite dans les années 50, où il y a un travail très minutieux sur la nouvelle civilisation de l'après-guerre, non, la vie de la société de l'après-guerre. Et donc, les journaux, les stars du cinéma, les publicités, naturellement. Le plus fameux est ce collage de Hamilton. Et pas besoin, je crois, de traduire, mais enfin, qu'est-ce que c'est en réalité, en fait, qu'est-ce que c'est qui rend la maison d'aujourd'hui ainsi différente et l'attrait, disons, non, que l'appealing de la maison moderne. Et alors j'ai essayé de démonter, de remonter le collage, et naturellement du point de vue de la forme, la construction, il est évident que ça dépend des photomontages Dada. L'idée de construire un espace qui est un espace renaissance. Non, il y a une perspective, il y a une chambre, et dans un petit salon, et dans ce salon, il y a des personnages et des objets. Presque, juste même du point de vue de la perspective et du point de vue des dimensions. Alors, là-bas, dans l'arrière-plan, derrière la fenêtre s'ouvre évidemment sur l'extérieur et dans la rue, et on voit un cinéma qui se trouve en face. Et donc, il y a le cinéma. Le cinéma est, est certainement non, l'entertainment le plus important de la vie moderne. On parle des années 56. Hein. Et ce qui est curieux, c'est que le film que Hamilton choisit de mettre, c'est ce Jed Singer de Al Jolson, et c'est le premier film musical, le premier musical de l'histoire du cinéma, et qui remonte à 1927, si je ne me souviens pas trop mal, il me semble 27, ou 29 ou 27, enfin des années, à la fin des années 20. C'est curieux, non? Dans une reconstruction d'un milieu, d'une pièce faite essentiellement sur des objets contemporains. Mais c'est un hommage, disons, en certain sens, à l'histoire du cinéma. Mais d'un certain type de film, le personnage principal est ce, on dit culturiste, hein? C'est ce Irwin Kozewski, c'est un Polonais qui était représenté fréquemment sur les couvertures des journaux Bilder. Là, l'autre personnage est la fille assise sur le divan, qui évidemment dépend cette arrivée, triomphale, non, de Marilyn Monroe dans les journaux pour hommes. Playboy fait le premier numéro de 1953 avec la fameuse photo de Marilyn sur le lit rouge. D'où, après, tous les sous-produits. Et Hamilton choisit le sous-produit, naturellement. Les Calendar Girls, non, des années 50. Et c'est elle qui est le modèle pour le collage de Hamilton. Lui, le héros là, qui arrive tout puissant, non, dans la pièce, vous avez vu, comment se dit, je l'ai calé, la sucette, voilà. Le Tootsie Pop, avec l'étiquette pop, non, bien en évidence, où le terme pop, dans ce cas-là, on a dit toujours, c'est là que la pop art naît, là, parce que notre héros a le mot pop dans les mains. Mais en réalité, c'est le fragment de toutes ces pop. C'est-à-dire cette sucette qui, évidemment, était choisie, évidemment, pour des raisons différentes. Pour, comment dire, créer un lien entre les deux personnages. En arrière-plan, sur la paroi du fond, il y a l'autre, comme il y a le cinéma d'un côté, il y a la bande dessinée de l'autre. Et donc le fragment de Young Romance, c'est un des journaux les plus populaires des bandes dessinées et des histoires bandes dessinées. À côté, il y a l'autre grand personnage de la vie moderne, c'est la télévision, mais une télévision qui entre dans la vie de tous les jours, mais même comme objet d'aménagement, non? La télévision meuble, la télévision de design, et la science moderne arrive à proposer même des objets pour la reproduction de la vie de tous les jours. Et donc le magnétophone, le grand magnétophone professionnel qui est mis par terre au premier plan. Le monsieur, là, certainement, est un culturiste, mais c'est même quelqu'un qui a des activités de travail, et les activités de travail, naturellement, appartiennent au monde de la finance mondiale, donc le Journal Commerce, mis sur le divan, là, laissé sur le divan. L'automobile, il faut aller bien mettre quelque chose, et donc il y a l'écusson de la Ford. Il faut manger aussi, non? Et alors le repas pop, moderne, naturellement le repas et la viande en boîte, non? La conserve. Et justement, il utilise Armour. Puis sur l'escalier, ça veut dire qu'il monte vers la fenêtre qui va vers le cinéma, il y a notamment la femme qui se occupe de nettoyer la. Hein, et qui utilise naturellement des instruments tout à fait modernes pour l'aspirateur très puissant, non, qui sert à nettoyer la moquette de l'escalier là-bas. Mais Hamilton ajoute « Ordinary cleaners reach only this far », c'est-à-dire les aspirateurs normaux s'allongent seulement comme ça, tandis que ce moderne exemplaire d'aspirateur devient beaucoup plus long. Et voilà. Ça, c'est le Dyson's DC-41 Animal. Et c'est le modèle que Hamilton insère. Et voilà. Ça, c'est là. C'est ce qui rend la maison moderne so appealing. Vous retrouvez tous les éléments dans le... Alors, on arrive à la fin et on reste en Angleterre. 67, le disque révolutionnaire avec sa couverture, avec un sleeve design moderne et inattendu. Et c'est la première fois où la couverture d'un disque pop, donc pas de musique classique ou de jazz, où il y avait déjà des exemplaires et des précédents, mais un disque pop, c'est la première fois où un artiste avec la majuscule, un artiste officiel, crée la couverture d'un disque. À l'époque, on s'en était pas aperçu, naturellement, tout de suite, mais la couverture était signée par un des grands artistes, désormais déjà très connu, artiste pop anglais, c'est-à-dire Peter Blake. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un collage, mais on arrive maintenant, sachant exactement tout le processus, on peut dire que c'est un faux collage. De même, ce qui rend la couverture parfaitement cohérente avec le disque. Ça, l'aspect le plus important, disons, de cette œuvre de Blake, c'est qu'il a su traduire en image ce que les musiciens avaient essayé de faire en musique. Les Beatles avaient fait, comme je crois la plupart de vous savent, avaient construit un disque qui était un faux concert, non, avec une introduction, des faux bruit de public, avec les chansons qui s'enfilent l'une après l'autre, sans le traditionnel espace de silence entre une chanson et l'autre, avec un final où il y a une sorte de reprise du premier motif, et puis avec une sorte de bis, non, fait à la fin. Mais tout le concert est faux, parce qu'il est réalisé complètement en studio. De même que les musiciens sont faux, parce que le groupe formellement s'appelle la Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Il ne s'appelle plus les Beatles. Alors, Blake a su, comment dire, traduire cette idée en image d'une façon parfaite. D'une part, les quatre garçons qui se présentent comme une band complètement neuve, non, les quatre, on ne les reconnaît presque pas parce qu'ils ont changé complètement leur look, non, et ils sont habillés avec des vêtements qui n'étaient pas les vêtements qu'on leur connaissait traditionnels. Et d'autre part, ceux qu'on connaissait, ils sont là à gauche. Ça, c'est l'image traditionnelle du groupe. Et leur nom est mis là sur la grosse caisse qui est en premier plan. Et le nom Beatles est présent, mais comme si c'était une sorte d'oration funèbre. non, avec comme on fait avec les petites fleurs comme ça pour. Et ça a un aspect un peu très très cimetière là, le premier plan. Donc c'est les funérailles du groupe le plus fameux de l'époque et une sorte de renaissance d'un nouveau groupe qui dépasse l'histoire. Et ce nouveau groupe appartient à un monde complètement différent, à une sorte de monde de l'au-delà. Et le public auquel ces musiciens s'adressent est le public qui est derrière leurs épaules, et c'est tout ce groupe de personnages plus ou moins fameux, où chacun de nous peut reconnaître une dizaine de personnages, mais il y en a presque 100, je crois, 80 et je ne sais pas combien, qui sont montés comme une sorte de photomontage. Mais ça, c'est un dessin de Blake qui prépare toute la couverture. C'est resté, non, je ne savais pas, je ne me souviens pas, c'était resté. Ça, c'est le début du disque. Ou l'idée même du Sgt. Pepper qui était pris de boissons les plus fameuses, non, du monde anglo-américain, le Dr. Pepper. Bon, je saute parce que ça, on le connaît. Et ça, c'est Peter Blake qui prépare la couverture parce que c'est un faux collage. Ça, c'est la scène du faux collage. La Sgt. Pepper, naturellement, est en chair et os. On dit non, c'est les quatre garçons qui sont comme ça, travestis, non? Une certaine... À gauche, il y a les vieux Beatles. Et ce sont les sculptures de Madame Tussaud qui ont été portées là exprès, de même que Cassius Clay, je crois, sur la gauche. Et tous les personnages qui sont derrière sont montés sur des panneaux. Et donc, ils sont mis sur une sorte d'échafaudage, de façon que ça. Après, l'œuvre se termine avec des photos qui sont prises de cette sorte de mise en scène. Donc, c'est un faux collage. C'est-à-dire, c'est un collage de reproduction de photos des personnages qui ont été choisis par Blake et par les quatre garçons, mais ils sont montés sur des panneaux et disposés comme si c'était des vrais personnages. Ici, on voit bien. Donc, l'image est, comment dire, parfaitement cohérente avec la musique. Parce que, de même que la musique est un faux concert, la couverture est un faux collage. Les personnages sont des personnages fameux, pas tous, naturellement, pour nous, mais représentent, c'est des personnages qui appartiennent à des époques différentes. Donc, il y a une sorte de, comment dire, on élimine là aussi l'élément du temps, non, et de la mémoire. C'est la mémoire qui prend le dessus, non? Et la couverture est un packaging que Blake invente. Et toute le marketing de l'opération était étudié avec une précision formidable. La couverture se présentait à double avec un dou double comment dire ouais, un double volet, voilà. Sur la quatrième page, il y avait les textes et le groupe de nouveau photographié. Et les textes, c'est la première fois qu'on mettait les textes. L'intérieur, il y avait la grande photo des quatre garçons. Et dans les deux poches, disons, de cette couverture, dans une poche, naturellement, il y avait le disque, et dans l'autre poche, il y avait ce carton qui était un cut-up. Non, c'était récupérer ces petits jeux d'enfants presque du 19e, non? Il fallait découper, on découpait c'était une sorte de pré-collage, non? Il fallait découper les images et on se mettait pour participer non, d'une histoire. La chose intéressante est que ce disque a été lancé dans le monde entier le même jour, le 1er juin 1967, dans le monde entier. Et donc, avec ce cut-out, comme Blake les appelle, c'est une sorte de paquet cadeau, non, qu'on fait aux admirateurs ou aux amateurs de cette musique. Et avec ce cadeau, le monde entier, en théorie, de même qu'il y a le monde entier derrière le groupe, le monde entier peut être uni de la même façon. Le même personnage, on peut s'identifier, le monde entier peut s'identifier dans ce personnage. Et nous pouvons être tous identiques en un certain sens et participer à un monde commun. L'année suivante, il y a le disque suivant où il y a de nouveau les Beatles appellent un artiste fameux pour préparer le packaging de leur disque. Et cette fois, c'est Hamilton. Et le disque, là aussi, est fait à deux volets, avec les deux poches. Dans une des poches, il y a un grand poster, celui-là, un grand poster, parce qu'il est plié exactement en six parties, en six fois, et donc se réduit au format carré du disque, et il est dans une poche. Et quand on l'ouvre, derrière, il y a les textes des chansons, et sur le devant, il y a un grand collage de Hamilton, où Hamilton a monté, comme ça, essayé de construire une image avec les fragments de photos que les quatre garçons leur ont donnés. Et c'est des photos qui ne sont pas officielles. C'est-à-dire, c'est des photos privées. Chacun d'eux a donné la photo qui, pour une quelque raison personnelle, lui souvenait quelque chose ou était lié à un épisode de sa vie. Ils y sont même comme enfants. Enfin, il y a tout un mélange de photos de famille, disons. Mais la chose la plus incroyable, c'est la couverture. Et tout d'un coup, c'est l'exact contraire de ce qu'ils avaient fait en 67. En 68, là aussi, le disque sort le même jour dans le monde entier. Et c'est un disque minimaliste, complètement blanc. À l'intérieur, il y a deux disques. Donc déjà, c'était même une opération de marché assez risquée parce que c'est le disque coûtait le double presque. Et donc, il y avait déjà un choix social, en un certain sens. L'intérieur, il y avait 30 chansons qui étaient complètement différentes par rapport à l'autre, des chansons absolument imparfaites, où les musiciens, chacun d'eux, jouaient des fois sans avoir les autres, sans remonter, sans faire les overdubbing, une sorte de, comment dire, presque de table de travail, où l'aspect individuel des quatre était mis à nu. Alors, tandis que le précédent était, comment dire, les quatre formaient un seul groupe et ils se adressaient à un monde, à un univers uni. Un an après, ils se proposent comme complètement séparés, où chaque musicien a sa propre individualité. Et le disque s'adresse, là aussi, au monde entier, mais où chaque propriétaire, disons, du disque est différent de l'autre et de tous les autres. Parce que la couverture, comme vous voyez, absolument essentielle, complètement blanche sur les quatre faces du disque, avec le nom Beatles qui est récupéré, simplement imprimé en relief. à sec, non, en relief, et avec le seul élément présent, c'est un numéro très, très imparfait, là aussi, comme c'est avec cet appareil qu'on faisait, on utilisait pour faire la numération progressive. Et chaque copie a un numéro différent. Donc, on peut même le vendre à tout l'univers, mais tous ceux qui ont ce disque ont un disque individuel et personne d'autre a le même disque. Moi-même, j'avais acheté et j'ai un disque que personne d'autre n'a parce que j'ai mon numéro. Et c'est évidemment le signal de la fin de la pop art, du moins pour ce moment de l'Angleterre. C'est l'ouverture en 68, c'est pas par hasard. En 68, au mois de novembre, il me semble, le disque a été publié en novembre. Et c'est un disque marque la fin du groupe, marque la fin d'une certaine culture populaire. C'est le début d'une sorte de, on peut dire, repliement sur soi-même. D'une forme de, on récupère l'individualité et ça ouvre un espace complètement différent. C'est d'ailleurs la même période plus ou moins où la pop art est remplacée par la minimal art et artistes ou musiciens qui travaillent avec des éléments élémentaires et, où il y a, on présente des objets et, ou des œuvres sur lesquelles c'est le spectateur qui réagit. Ou il ne réagit pas, ou il réagit, mais d'une façon totalement individuelle. La musique, je ne sais pas, de Steve Reich ou de Philip Glass de cette époque, Lamontiang, de même que les artistes américains, surtout minimalistes américains, présentent par exemple un mur complètement blanc ou un énorme cube de fer rouillé ou des morceaux de moquette qui peuvent ne dire absolument rien. Et où le spectateur peut n'avoir aucune réaction. Et en tout cas, s'il a une réaction, c'est une réaction qui est individuelle. Parce que le sens de l'objet qu'il a devant les yeux dépend de sa réaction. C'est un objet que, par lui-même, est un objet neutre. De même qu'un disque complètement blanc est un disque neutre, en un certain sens. Et comme dernière image, j'ai mis un autre Italien, fameux, je crois, assez fameux, du moins, c'est un des Italiens du milieu pop italien plus connu à l'étranger, je crois, Mimmo Rotella, qui a inventé le contraire du collage, c'est-à-dire le décollage. Le décollage, mais qui donne raison à un aspect que le collage, on a vu, a en lui-même. C'est-à-dire la mémoire, la sauvegarde, en un certain sens, de la mémoire. Rotella, vous savez, se tournait dans les villes, dans les rues de Rome, et la nuit, il déchirait des morceaux des pancartes de publicité des films, et après, il le remontait en studio. De telle façon que On a des œuvres, les plus importantes, où les personnages se mélangent entre eux, personnages qui appartiennent à des films et donc à des histoires différentes, qui se entrent en contact et où progressivement on récupère presque une stratification de perdue, des surfaces perdues. De même que, de telle façon qu'on peut avoir, dans ce cas, par exemple, le mélange entre la Dolce Vita et donc Fellini Anita Ekberg, Mastroianni naturellement, mais en 59, non? Mais avec un autre personnage qui arrive à la surface, comme si c'était une sorte de souvenir, non, qui se met sur l'eau, non. C'est Toto qui arrive. Toto avec des films qui n'ont absolument rien à voir avec Fellini. Et les deux noms avec Toto et les Marcellini qui arrivent presque sur le personnage de Anita Ekberg. Et donc en mélangeant même des conventions, disons, des catégories du cinéma qui sont complètement différentes, mais surtout qui appartiennent à des moments différents. Fellini, en 62, le film La Dolce Vita était un film tout à fait actuel, enfin, il était sorti tout juste 2 ans après, à l'avance. Et, comment dire, c'était un film qui était... qui représentait un style de vie absolument contemporain et qui appartient à un certain milieu social, un milieu qui n'appartient pas au peuple. C'est, comment dire, c'était un film qui représentait un monde qu'on pouvait connaître seulement à travers éventuellement les journaux populaires, parce qu'il y avait des personnages qui appartiennent à la high society éventuellement, non? Tandis que Toto faisait des films qui étaient populaires, qui s'adressaient à un public moyen, avec une comicité un peu vieux style, comicité d'avant la guerre presque, et un personnage de cirque. Et c'est en réalité Fellini, on sait bien qu'avait une attention maniacale pour le monde de la représentation du cirque. Mais le résultat de Rotella est qu'avec le décollage, il arrive à créer ces sortes de réunions entre dimensions différentes et entre époques différentes. Et surtout, l'idée de sauver une image d'un passé qui autrement pourrait disparaître. Et après, bon, c'est devenu une formule assez facile en certains sens, mais d'autre part, quelle est la formule qui ne devient pas facile? Merci.